Pour libérer la croissance du digital, il y a grosso modo deux grands sujets à résoudre. Le premier, c'est comment j'offre une expérience d'achat qui est vraiment différenciante par rapport à l'expérience magasin. Donc c'est ce qu'on appelle le first mile. Et le deuxième sujet qui est comment je livre de manière efficace et au meilleur prix la commande que le client aura générée, qui est ce qu'on appelle le last mile. Donc nous, on avait une conviction de départ qui est qu'il y avait un énorme enjeu sur le first mile, sur l'expérience d'achat qui n'avait pas été réinventée et révolutionnée. Et cette intuition, elle était confirmée par le marché.
Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité, directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Toujours sans coupure. Cet épisode s'adresse aux gourmets. Oui, en plus des courses alimentaires, nous allons parler recettes cuisine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Sabatier, CEO et cofondateur de Joe, la célèbre app qui fait vos courses en fonction de vos menus préférés dans le supermarché de votre choix. Bon, oui, la description est peut-être un peu courte, un peu trop rapide, mais Jacques va nous la détailler d'ici peu, vous l'aurez compris. Nous allons parler de courses alimentaires, de livraison à domicile et d'expérience de consommation. Comme d'habitude, nous allons commencer par prendre de la hauteur et redéfinir les contours du marché de l'alimentaire en France. Nous poursuivrons avec la proposition de valeur de Joe, comment et pourquoi cette app adresse-t-elle son marché de façon singulière. Enfin, nous reviendrons sur les consommateurs, comment Joe gère les sujets de la relation client, de la data, de l'acquisition ou encore des réseaux sociaux. Bref, des sujets qui s'annoncent passionnants. Mais avant de commencer, Jacques, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Merci Cyril de m'accueillir sur le podcast. Donc, je suis Jacques-Édouard Sabatier, un des cofondateurs et le CEO de Joe, qui est une boîte qu'on a créée il y a 4 ans maintenant. On a lancé le produit il y a un peu plus de 3 ans. Et ça marche plutôt pas mal jusqu'ici.
Ouais, ça a l'air de bien marcher puisque on peut mesurer la notoriété dans son entourage de l'utilisation de Joe. Tu nous reçois dans les bureaux, plus précisément dans la cuisine de Joe. Donc c'est imaginer que vous êtes dans votre cuisine plutôt grande avec un peu de matériel pour prendre des photos, des vidéos. On va rentrer dans le détail de tout ça, mais enfin au moins on est en immersion complète ensemble pour l'enregistrement de cet épisode. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton profil? T'as plutôt un profil ingénieur, commercial, c'est quoi le début de ta carrière? Enfin, par quelle étude t'as commencé?
Alors j'ai un profil, je pense que le fil rouge de mon profil, c'est mon côté un peu geek. Alors je suis un vrai faux geek parce que je suis pas un grand développeur et un grand technicien, mais j'ai toujours baigné dans l'écosystème et dans l'environnement digital. Ça a commencé très très tôt puisque mon papa, quand j'étais tout petit, était un fan d'informatique, donc j'avais à la maison un Apple IIe, donc ça date, ça vous donne une idée de mon âge. Et déjà à 5 ou 6 ans, je m'amusais à jouer à Conan le Barbare sur un Apple IIe, et il fallait mettre un floppy disk, donc littéralement des disquettes souples. Donc ça va pas, ça me rajeunit pas, et peut-être que ça ne parlera pas à une partie de l'audience. Ensuite, ça a continué à mon adolescence. Je me souviens d'une anecdote où j'avais assemblé mon premier ordinateur. C'était l'époque où Apple n'était pas encore ultra dominant et on pouvait assembler ses PC soi-même. Donc, on achetait la tour, on achetait le disque dur, on achetait le processeur.
Là, t'es en quelle année à peu près ?
Là, on est en 94, 95. Donc, j'étais vraiment jeune adolescent, plutôt pré-adolescent à l'époque. Et je n'avais qu'une idée en tête, c'était de monter un site internet pour vendre du vin. Et je me rappelle très bien, du haut de mes 13-14 ans, aller au magasin d'informatique et dire au vendeur « Oui, c'est pour mon entreprise, pour vendre du vin. » Je pense qu'il a souri avec beaucoup de bienveillance parce que je ne savais même pas ce que ça voulait dire monter une entreprise et ainsi de suite. Mais en tout cas, ça donnait une idée de ce que j'avais envie de faire. Et après, j'ai fait un parcours principalement dans l'innovation et dans le digital. Alors, je suis chimiste de formation, pas codeur, ouais, mais chimiste.
Chimiste.
Ouais. Donc, en chimie organique, enfin, plus précisément en biotechnologie. Donc, j'étais quand même dans la branche de la chimie où je faisais de la modélisation de protéines en 3D. Donc, il y avait quand même malgré tout un peu d'informatique
là-dedans. T'as fait ça à l'université ?
J'ai fait ça à l'université, oui, à Montpellier. Ensuite, j'ai fait une admission parallèle où je suis rentré en école de commerce. À la fin de mon école de commerce, je suis parti travailler à Munich, au département stratégie d'un gros groupe d'électronique qui s'appelle Infineon. Alors, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais c'est un des leaders dans les semi-conducteurs. Donc, on parle beaucoup des semi-conducteurs en ce moment parce qu'il y a des ruptures d'approvisionnement. Et effectivement, le semi-conducteur, c'est à mi-chemin entre l'informatique et la chimie, puisque techniquement, c'est de la chimie, puisque c'est des composants qui sont faits en silice et qui utilisent des procédés chimiques pour fonctionner et pour être fabriqués aussi. Mais derrière, pour être mis dans des ordinateurs, donc on n'était quand même pas très loin du sujet. Ensuite, je bossais au département stratégie, donc je bossais essentiellement avec des anciens McKinsey.
Là, tu es resté combien de temps en Allemagne ?
Je suis resté un an. C'était le.
Et là, on est à quelle
là,
année ?
Là, on est en 2007.
Ouais.
2006-2007. Ensuite, je suis rentré en France et j'ai débuté ma carrière dans le conseil, principalement chez Accenture. Donc, je faisais du conseil en management et en stratégie chez Accenture.
Pour quel type de client ?
Pareil, toujours plutôt dans la branche innovation. Donc, j'ai pas mal travaillé sur Orange, pour Orange, sur les réseaux sociaux. J'ai travaillé un peu pour EDF et Air France sur les composantes CRM. Enfin, j'ai fait mes classes de consultant. J'ai fait des missions finance, des missions RH, mais toujours pour des clients et dans un environnement d'innovation. Et une de mes dernières missions était chez Canal+, où je les aidais sur leur écosystème e-commerce, puisque Canal+, c'est pas qu'une chaîne de télé, c'est aussi un business. Il faut vendre des abonnements. Dans le cadre de cette mission, ils m'ont débauché et j'ai ensuite fait
Donc tu as rejoint
Je suis rentré chez Canal+.
Quelle année à peu près ?
Donc j'avais commencé ma mission en 2010 j'ai commencé à bosser chez eux en 2010 en tant que consultant et je suis ensuite rentré en tant qu'interne, comme on dit, en 2012.
D'accord.
Et ensuite j'ai bossé 4 ans chez Canal. J'ai fait 3 jobs différents en 4 ans. J'ai commencé d'abord plutôt sur la partie e-commerce. Ensuite j'ai fait de la direction de projet, donc j'ai lancé à l'époque Canal Play, qui était la brique SVOD, qui se voulait être le concurrent de Netflix avant qu'il n'arrive en France.
Avant qu'on revienne sur Canal, puisque finalement après l'expérience à Munich, ta première expérience majeure, ça a quand même été Accenture. Tu dis que tu as fait tes classes. Je suis intéressé de savoir ce que tu as retenu, de ce que tu as appris de cette expérience de 3-4 ans, c'est ça ?
Ouais.
Quelque chose comme ça. Avec quoi tu es reparti d'Accenture ?
Alors, je pense que le principal enseignement du conseil, c'est deux choses en fait. Un, c'est la capacité de travail, parce que on est quand même le fait de travailler en mode mission et en mode projet, c'est finalement assez proche de l'entrepreneuriat en termes de rythme, de milestones qu'on s'impose et ainsi de suite. Donc, par opposition au train-train quotidien d'un grand groupe, c'est quand même un mode projet qui est assez intense où on fait des horaires à rallonge. Alors, je mesure pas du tout la qualité du travail par le nombre d'heures passées, mais en tout cas, c'est quand même important de savoir jusqu'où on peut aller trop loin en termes de force de frappe, on va dire. Et le deuxième élément central, c'est clairement la méthodo. C'est-à-dire qu'un malgré tout, avoir des frameworks, savoir formaliser un problème, savoir le décomposer pour ensuite mieux le résoudre. C'est une gymnastique intellectuelle qui est maintenant un réflexe et qui continue d'être très utile dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui. Alors, à l'inverse, pour regarder les côtés négatifs, je suis aussi content d'avoir un impact concret, parce que c'est vrai que quand on est consultant, on a l'impression qu'on pond du slide toute la journée, et souvent on fait des recommandations, mais on n'est pas toujours là pour voir leur mise en place, et encore moins pour voir leurs résultats, ce qui est quand même un truc un peu bizarre, et parfois un peu schizophrénique, et souvent très frustrant. Donc il y a aussi pas mal de bullshit dans le conseil, donc je suis très très, très conscient de cette partie-là. Mais il y a quand même malgré tout une triple richesse, j'oublie un dernier élément, qui est la variété des missions. C'est-à-dire que c'est une richesse dingue d'avoir pu bosser chez Air France, chez EDF, chez Orange, sur des sujets très variés, et ça c'est quand même ça a mille fois plus de valeur qu'un MBA ou que 10 ans d'études, puisqu'on est dans le concret, on voit des problématiques concrètes de boîte sur des sujets très très variés. Donc donc les trois points clés, c'est un, la multiplicité des sujets auxquels on est exposé, qui est une immense richesse en termes de formation. Deux, la méthodo qui donne quand même des réflexes sur la formalisation, la décomposition, la résolution des problèmes. Et trois, effectivement, ça permet de s'organiser, d'organiser cette capacité de travail, savoir quand est-ce qu'on en fait trop, quand est-ce qu'on en fait pas assez, et aussi savoir le prioriser, parce que quand on est dans la seringue d'une mission et qu'il y a des livrables, ben, il faut apprendre quelque chose qui est essentiel pour un entrepreneur, qui est où est-ce que je mets du temps et où est-ce que j'en mets pas.
Bon, alors ça, merci pour cette précision, parce que c'est vrai que c'est souvent important de comprendre ce qu'on a appris, en fait, et là tu l'as très bien synthétisé. Donc fort de cette richesse, de cette expérience, de ces assets en fait, avec lesquels tu pars de chez Accenture, tu arrives chez Canal+.
Tout à fait.
Tu as commencé à le raconter, une partie e-commerce pour commencer, et puis après Canal Play. C'est ça ?
Oui, donc en gros, donc, j'ai d'abord bossé sur ce qui s'appelait à l'époque les offres Canal, qui était le portail e-commerce, donc comment on vend des abonnements en ligne, qui était quand même un sujet important, hein, puisque c'est quand même le nerf de la guerre chez Canal+. Ensuite, j'ai fait de la direction de projet, en fait. Donc, j'étais directeur de projet sur deux grands sujets. Le premier, c'était Canal Play. Donc, on a lancé l'offre de SVOD qui, comme je disais précédemment, était le Netflix de Canal+. Faut se remettre dans le contexte. À l'époque, Netflix n'était pas arrivé en France. Donc, Canal+, et sa maison mère, Vivendi, s'étaient mis en ordre de bataille pour essayer de préempter le terrain avant que Netflix arrive. Et donc, c'est une mission qui m'avait été confiée, qui était hyper intéressante, puisque c'était à la fois la création du service, pas seulement sur Internet et sur mobile, mais sur tout un tas de devices. On faisait aussi Xbox, on faisait aussi les box des opérateurs, puisque de plus en plus, les opérateurs sont des partenaires indispensables des fournisseurs de contenu. Donc opérateurs Free, Orange, Bouygues Télécom et ainsi de suite. Et il y avait aussi un enjeu de contenu et de catalogue, parce qu'il fallait clearer les droits, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire acheter les droits spécifiquement pour la SVOD, sur des films, sur des séries, essayer de construire le bon catalogue. Constituer l'offre dans un environnement où une des clés d'entrée, c'est l'hyperchoix, puisque la promesse de la SVOD, c'est une espèce de vidéoclub illimité. Mm-hmm. Donc pardon, SVOD, c'est le nom technique pour les offres d'abonnement illimité à du contenu. Donc c'est la subscription vidéo on demand, c'est-à-dire qu'on paye un abonnement, c'est littéralement Netflix, c'est-à-dire que je paye un frais fixe par mois et j'ai accès à autant de vidéos que je veux. Et donc c'était le cas pour Canal Play. Et donc on est dans une offre d'hyperchoix qui a été extrêmement intéressante pour Joe et pour le supermarché, qui est aussi dans une logique d'hyperchoix, j'y reviendrai. Donc j'ai appris plein de choses sur cette dimension-là.
Ouais, justement, t'as appris quoi globalement? C'était resté combien de temps chez Canal? En tout, l'expérience complète?
En tout, un peu plus de 6 ans.
Mmh, ouais, donc c'est une grosse expérience.
Je pense que c'est un bon cycle, effectivement. Et alors donc juste avant de parler des apprentissages, et j'ai reproduit le même schéma, c'est-à-dire de la direction de projet sur, cette fois-ci, MyCanal. Donc, à l'époque, Canal+ avait une galaxie de sites qui s'étaient créés. Il y avait un site pour le live, un site pour le replay, le à la demande. Il y avait des chaînes qui avaient leur site. Et donc, il y a eu un projet, comme il y en a souvent, d'agrégation de tous ces éléments dans un même portail portail qui est devenu MyCanal. Donc la première version de MyCanal, ça a été fait avec notre équipe chez Canal+. Et à l'issue de ces deux projets, j'ai eu encore un nouveau job où j'ai fini en fait par diriger tout le digital de Canal+. Donc là, aussi bien sur la dimension nouveau contenu, donc on faisait de la production de YouTubeurs, de nouveaux formats dédiés au web, que sur la dimension servicielle, donc comment on construit les sites, que sur la dimension business, sur tous les partenariats marques, le brand content et ainsi de suite, que sur la dimension acquisition, réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc on avait dans ma business unit un panel assez large et un éventail assez large de compétences et d'expertise. Et je suis ensuite parti de Canal pour aller chez Joe.
Et ça, c'est cette transition Canal Joe, c'est quelle
année ?
C'est 2016.
Enfin, je suis parti de chez Canal en 2016 et on a créé Joe en 2017. Mais okay. Bon, enfin, c'est la période de transition.
T'as vécu une expérience très différente de celle d'Accenture, puisque pour le coup, t'étais de l'autre côté de la barrière, en fait, côté opérationnel, en étant chez Canal. Tu l'évoquais justement dans les à côté du conseil, c'est que tu conseilles et tu vois pas l'application concrète, la mise en œuvre des conseils que tu portes. Là, tu as été dans plus les mains dans le cambouis. Ça vient compléter finalement ce que tu as pu faire avant chez Accenture. Tu en ressors avec quoi ?
Alors, enfin, surtout si on le compare au conseil, il y a des choses fondamentales que j'ai pu apprendre. Alors, la toute première, c'est le management, parce que quand on est consultant, on est souvent à la cave en train de bosser un peu tout seul ou avec une équipe d'autres consultants mais qui tournent à chaque mission, et certes on a des managers mais qui eux-mêmes tournent, donc il n'y a pas vraiment cette notion de management. Là, quand on fait de la gestion de projet, il faut apprendre à gérer ses propres équipes mais aussi des équipes qui travaillent avec nous et qui ne sont pas directement sous notre responsabilité. Donc il faut, ça suppose d'apprendre beaucoup de choses sur comment on gère des équipes, les nôtres, celles d'à côté, comment on les fait travailler ensemble, comment on résout les problèmes, comment on les motive, comment on est positif, comment on amène de l'énergie dans cette équation. Donc clairement, mon passage chez Canal+, ça a été un apprentissage dingue sur la partie managériale, y compris jusqu'à la dernière expérience où j'avais quand même une business unit d'une 40-50 personnes. Donc ça a quand même été quelque chose d'extrêmement riche sur cette partie-là. J'ai aussi beaucoup appris, encore une fois, sur comment on déploie concrètement un projet. Donc, pas s'arrêter à la recommandation de ce qu'il faut faire, mais se confronter à la réalité de comment on le fait et de comment on le met en œuvre, de comment ça se passe les premiers jours, est-ce que ça décolle. Enfin, je me rappelle comme si c'était hier du lancement de MyCanal et du lancement de Canal Play, où tous les jours on regardait combien il y avait de nouveaux abonnés, combien il y avait de nouveaux téléchargements et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des périodes qui sont hyper excitantes et hyper enthousiasmantes. Et effectivement, après, toute la structuration opérationnelle, parce que quand on fait un projet comme Canal Play ou MyCanal, il faut encore une fois penser à comment on va alimenter le contenu, comment on va l'éditorialiser, à quelle fréquence, comment on va s'assurer que tous les flux fonctionnent, comment on va mettre en place des sondes pour voir qu'il n'y a pas un truc qui tombe, même si tous les autres fonctionnent, comment on va mesurer la qualité de service, comment on va mesurer la satisfaction client. Donc toute la dimension opérationnelle concrète, on va dire, a été hyper intéressante. Et encore une fois, le fait d'avoir géré ces deux projets vraiment en mode gestion de projet, c'est littéralement une petite boîte à l'intérieur de l'entreprise. C'est comme ça y ressemble beaucoup. Donc ça a été hyper riche pour derrière la partie entrepreneuriale de mon parcours.
Eh ben, tease-nous juste la partie entrepreneuriale de ton parcours. Qu'est-ce qui a motivé ce changement ? Pourquoi t'es parti de Canal ? Pourquoi t'as voulu créer Joe ? Un peu en mode teaser pour qu'on puisse ensuite, comme je le disais en introduction, revenir sur le marché qu'adresse Joe, et avant d'arriver sur la proposition de valeur à proprement parler.
Alors, en vrai, j'avais déjà commencé à monter. Je pense que j'ai un vrai profil projet. C'est-à-dire que j'aime bien lancer des trucs. Je pense que ma principale qualité, c'est celle-là. Je suis beaucoup moins marathonien. J'ai énormément de défauts sur la partie long terme et ainsi de suite. Je pense que dans les profils classiques, je suis beaucoup plus sprinter, j'adore lancer des trucs, j'adore fédérer des équipes, j'adore monter des projets, c'est vraiment ça qui m'excite. Et ça s'est vu tout au long de mon parcours, que ce soit pour créer un club de modélisme quand j'étais au collège ou plus tard dans mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Le tout premier, en l'occurrence, c'était en 2007. En parallèle de mon job de consultant, j'avais monté une première boîte qui s'appelait Jaxo à l'époque, comme quoi le J est très présent dans ma vie. C'est pas moi qui l'avais choisi, hein, mais qui faisait qui était une application mobile pour décoder les codes barres de données, donc les QR codes et les data matrix. Aujourd'hui, ça fait partie de notre vie. Tout le monde sait à peu près ce qu'est un code barre de données, et c'est une fonctionnalité de base des téléphones portables, on ne se demande même plus comment ça fonctionne. Mais en 2007, il faut se remettre dans le contexte du marché, il n'y avait pas de smartphone. Le tout premier iPhone était sur le point de sortir, Android était embryonnaire, et le marché était dominé par Nokia et une pléiade de constructeurs. Et grosso modo, quand on voulait faire une application, il n'y avait pas d'App Store, et donc quand on voulait faire une application pour un de ces téléphones, il fallait souvent en faire 50-100 versions différentes selon le type d'écran, le type de téléphone, le type d'OS. Nous, on le faisait en Java essentiellement, mais il fallait avoir quasiment 150 téléphones au bureau pour tous les tester. C'était des petits téléphones, des Sony Ericsson ou des Nokia, qui souvent étaient des téléphones à clapet avec les toutes premières caméras qui faisaient 1 mégapixel. Donc voilà, c'était une vraie performance à l'époque de pouvoir décoder des codes barres avec ces téléphones-là. Et pour la petite histoire, un de nos premiers clients que j'avais signé, c'était le groupement des Mousquetaires, donc c'était mon ouais, premier prêt dans la grande distrib. Et après, j'ai jamais trop... en bon geek, j'ai toujours été très très immergé dans l'écosystème entrepreneurial et start-up. Chez Accenture, il y avait un programme qui s'appelait la chaîne de l'innovation, qui était justement les interactions start-up grand groupe auxquelles je participais très régulièrement. Chez Canal+, on avait une entité qui s'appelait Canal Start, qui était l'entité start-up de Canal+, dont j'étais à la fin partner. Donc c'est notamment moi qui gérais les interactions avec les start-up au sein du groupe Canal+. Et donc en fait, j'ai été en permanence immergé dans cet écosystème et j'ai toujours eu les antennes sur ce qui se passe. J'ai vu beaucoup de modèles, j'ai vu beaucoup de pitch, donc je me suis beaucoup éduqué. Et on est littéralement dans la situation où il m'a fallu 10 ans pour monter une boîte du jour au lendemain, c'est l'expression consacrée. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment l'histoire de Joe, c'est ça. C'est un jour, j'ai rencontré ce problème moi-même, dont on va parler plus tard. Et tous les voyants dans ma tête se sont mis au vert. C'est-à-dire que le marché était évident, le besoin était évident, le marché était immense, en pleine croissance. Et donc en fait, ce qui m'a permis de comprendre cette opportunité et le potentiel de cette opportunité, c'est effectivement les 10 ans que j'avais passé avant à traîner mes guêtres dans l'écosystème startup
français. Donc t'es parti de chez Canal avec l'idée sous-jacente que t'allais monter cette boîte et devenir entrepreneur.
Bien sûr.
En deux mots, je pense que tu l'as. Comment tu définis Joe aujourd'hui ? C'est quoi, Joe ?
Alors Joe, c'est votre assistant personnel pour gérer la maison au quotidien. J'y reviendrai. Ça ne se limite pas. On a commencé effectivement sur la partie food. Donc le premier pas, c'était de résoudre la question des repas. Mais en fait, si on prend un peu de hauteur, quand on est chef de famille, on est en fait la personne la plus importante de la maison. Et un de nos enjeux au quotidien, c'est de faire tourner la maison. C'est de s'assurer qu'il y a à manger dans le frigo, c'est de trouver des idées pour les repas du soir, mais c'est aussi s'assurer qu'il nous reste de la lessive, du papier toilette, du shampoing. Et tout ce process-là, c'est comment je fais tourner la maison. Et aujourd'hui, on a une vision un peu triste des supermarchés et un peu lointaine, mais la réalité, c'est que les supermarchés, c'est nos meilleurs partenaires et nos meilleurs fournisseurs pour faire tourner la maison. Et donc, ce qu'on veut faire, nous, de Joe, c'est littéralement votre assistant personnel pour vous aider à faire tourner la maison.
Bon, on va revenir
là-dessus. On va y revenir.
C'est une belle promesse, en tout cas. Tu as commencé à en parler. On est quand même à l'origine sur le marché des courses alimentaires. auquel se greffe l'ensemble des produits liés à la maison. On comprend bien, dans un supermarché, il est vrai que non seulement tu achètes la nourriture, mais aussi les lessives et tous les consommables qui se trouvent dans la maison et dans le jardin. Ce marché, comment tu le définis aujourd'hui? Comment tu le perçois? Quels sont les enjeux auxquels l'ensemble finalement des acteurs de cet écosystème doivent faire face? Et au milieu de tout ça, les consommateurs.
Alors, c'est une très bonne question. Et effectivement, c'est un élément central du projet de Joe. Donc, je reviendrai sur les pain points clients qu'on essaie de résoudre. Mais malgré tout, pour comprendre la genèse du projet, le point de départ, c'est je viens d'accueillir mon premier enfant. Maintenant, j'en ai deux. Donc, je viens de devenir papa. Je viens donc de créer mon foyer. La création du foyer, c'est quand on s'installe avec son partenaire et ou quand on achète son premier appartement ou sa première maison et ou quand on a son premier enfant. Et la conjonction des trois, c'est la création du foyer qui suppose deux choses. La première, des contraintes de temps et d'argent. Contraintes de temps parce qu'on n'est plus tout seul, donc on ne fait plus ce qu'on veut, il faut s'organiser avec les autres. Et contrainte d'argent parce que les enfants ça coûte cher, le crédit de la maison ça coûte cher, donc il faut être un peu plus malin sur son budget, et ça s'applique évidemment aux courses du quotidien. Et la deuxième chose, particulièrement si on a des enfants, c'est que c'est le moment où notre conscience alimentaire est à son maximum, parce que autant nous on accepte de temps en temps de manger n'importe quoi, a fortiori quand on est jeune et que ça n'a pas d'impact sur notre santé, quand on avance un petit peu dans l'âge, si on mange mal, ça se voit très très vite. Et quand on a des enfants, il est hors de question de leur mettre des perturbateurs endocriniens ou édulcorants ou tout autre élément suspect dans leur assiette, et on devient un petit peu un fou de l'étiquette. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est littéralement un problème que j'ai rencontré moi. Le supermarché est re-rentré dans ma vie comme il re-rentre dans la vie de beaucoup de familles à ce moment-là. En général, on va au supermarché avec ses parents quand on est petit, puis ensuite le supermarché disparaît de notre vie et il re-rentre dans notre vie quand on crée son foyer. Et donc me voilà en train d'essayer de remplir mon frigo dans mon nouveau foyer, et j'ai essayé toutes les applications et les sites web existants des supermarchés, et j'ai trouvé que c'était extrêmement laborieux, sachant qu'on était à l'époque déjà en 2017, donc on parle pas non plus de 2002, hein. Et je trouvais qu'il y avait un problème dans le process, parce que quel que soit le supermarché que j'essayais, quelle que soit l'application que j'essayais, qu'elle soit nouvelle, bleue, rouge, bien faite ou pas, il y avait un problème, c'est que ça prenait beaucoup trop de temps et que c'était beaucoup, beaucoup trop compliqué.
Donc ça, c'est en fait un point de départ. Il y a un constat qui consiste à dire « je ne suis pas satisfait de l'expérience qui m'est proposée sur les différentes apps pour faire mes courses ».
Exactement.
Et c'est ce qui va lancer Joe. On va revenir sur ce lancement. Mais est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment tu définis ce marché-là? Il y a un environnement concurrentiel face auquel tu es confronté tous les jours. Au milieu de ça, il y a des consommateurs, il y a des tendances. La crise sanitaire a modifié les comportements d'achat. Je te l'apprends pas, c'est un constat. Il y a des acteurs nouveaux qui arrivent sur ce marché-là, entre le mieux consommer, c'est quelque chose que tu viens d'évoquer. On entend aujourd'hui, par exemple, que le bio marche moins bien, la croissance du bio n'est plus ce qu'elle a été. Donc ça interroge. Bon, bref, définis-nous un petit peu tout cet environnement-là. Et puis, alors, je rajoute un truc qui me vient comme ça en même temps que je te parle, l'ensemble des programmes TV de cuisine. Est-ce que quelque part ça aussi illustre une tendance dans laquelle vous vous inscrivez? Enfin, toi, il y a plein de choses, mais parle-nous de ce marché.
Exactement. Alors, pour le coup, le programme de cuisine, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard sur le produit lui-même, mais donc je fais ce constat que je trouve que les applications existantes ne sont pas satisfaisantes, du coup, je m'intéresse au marché. Et là, je creuse et je me dis. C'est quand même très bizarre qu'on n'investisse pas plus en digital sur ce process qui est quand même un des process d'achat les plus importants de tous les foyers français. Donc je commence à creuser un petit peu et à regarder ce qui se passe. Et là, le premier constat assez surprenant, c'est que pré-Covid, le chiffre moyen e-commerce, le chiffre d'affaires moyen en e-commerce des supermarchés se situait selon les enseignes entre 0,5% et 3,5% de leur chiffre d'affaires total.
En incluant le drive.
En incluant le drive, ce qui était ridiculement bas. Enfin, à l'époque, on était déjà dans le retail sur des moyennes qui allaient entre 15 et 20% de chiffre d'affaires en e-commerce. Donc il y a manifestement un problème quelque part qui ne se limite pas à l'expérience d'achat, qui est on a certainement un des plus gros segments du commerce français, puisque la somme de la grande consommation en France, ça représente pas loin de 7% du PIB. Enfin, certaines études placent la somme cumulée des épiceries et des supermarchés à entre 150 et 200 milliards
par an. Oui, c'est ces chiffres que j'ai. Ouais.
Donc c'est un business qui est colossal. C'est un process qui touche quasiment tous les Français de faire ses courses au supermarché. Et donc la première question, c'est pourquoi c'est si peu digitalisé? Donc on commence à creuser un petit peu. Alors effectivement, depuis, le Covid a été un énorme accélérateur et ça a été multiplié par 2 ou 3, mais on est encore souvent en dessous des 10%, qui reste un chiffre relativement faible, a fortiori à l'issue d'un énorme boost. Donc la première question, c'était pourquoi entre 2017 et 2022 aujourd'hui, on est en train de vivre la naissance du supermarché digital, ni plus ni moins, alors que toutes les autres industries ont déjà fait leur mutation digitale.
Alors que c'était aussi un des premiers services e-commerce, hein, la livraison à domicile, souviens-toi des Oura et Outre Shop qui étaient à l'époque.
Et c'est ça qui est encore plus surprenant, c'est que ça, c'est le paysage français, mais si on regarde dans d'autres pays, les chiffres sont encore plus bas. En 2017, enfin, il y a encore 8 ans, Walmart n'avait aucune activité e-commerce en propre, n'avait pas un seul drive. Aujourd'hui, tous les Walmart ont un drive. Donc ça, c'est,
le drive est du Made in France. Hein.
Exactement.
C'est une invention, une évolution du commerce française qui.
Exactement. Qui a Et donc, en fait, si on fait une mini histoire en deux minutes de la grande distribution, donc. La France a été un des pionniers sur le format supermarché. On ne l'a pas forcément en tête, mais on a été un des tout premiers pays au monde à adopter ce format. Et la France a été pionnière aussi sur le digital, donc début des années 2000, avec deux chemins, la livraison à domicile et le drive. Donc le drive, Leclerc et Chronodrive au début, la livraison à domicile, effectivement, des précurseurs comme Oura ou Monoprix. Et là où dans d'autres pays, typiquement si je compare rapidement avec les États-Unis, ça a été attaqué tout de suite par des startups qui se sont toutes plantées parce qu'elles n'ont pas trouvé le rationnel économique. Et ensuite, il s'est rien passé pendant une dizaine d'années jusqu'à l'arrivée d'Instacart, qui a créé une solution un peu originale de personal shopper. Donc Instacart, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est j'envoie ma liste de courses à un monsieur ou à une dame qui va faire les courses à ma place et qui les ramène à la maison. Donc c'est c'est une solution e-commerce, mais c'est de la technologie humaine, on va dire. On est vraiment en plein dans la gig economy. Mais entre-temps, il s'était rien passé aux États-Unis. Là où en France, ça a continué de progresser. Et premier élément intéressant, on pourra peut-être y revenir, mais pour poser les bases, aujourd'hui, si je ne regarde que les supermarchés, pas les autres offres, on est quand même sur un segment qui est très largement dominé par le drive, quand on parle de e-commerce. C'est très largement du drive quand il s'agit des supermarchés.
C'est 80-20, non ?
Ouais, c'est même parfois un peu plus. Ouais. Mais pour donner des métriques très concrets, les acteurs de la livraison à domicile, ils ont longtemps plafonné entre 80 et 120 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, chacun. Alors maintenant, ça décolle un petit peu plus, mais on est entre 100 et 200 millions, pas beaucoup plus. Là où les acteurs du drive ont très rapidement franchi la barre du milliard et Leclerc a même franchi la barre des 5 milliards si je dis pas de bêtises. Donc vraiment il y a un facteur de 1 à 10 entre le succès du drive et le succès de la livraison à domicile, mais je vais y revenir parce qu'on va évidemment parler un peu de Q-commerce. Donc la question c'était mais pourquoi ça décolle pas et pourquoi c'est compliqué. Alors il y a une première réponse qui est assez simple, c'est que le rationnel économique est difficile à trouver. Le business des supermarchés, c'est un business à toute petite marge. Et dès qu'on rajoute des coûts supplémentaires, c'est-à-dire une préparation de commande ou une livraison de commande, quand bien même on en fait supporter une partie du coût à l'utilisateur, l'équation économique est très difficile à trouver. Donc,
il faut des volumes.
Il faut beaucoup de volumes. Et donc, on est dans le dans le paradoxe classique des grands groupes, c'est que si j'investis pas massivement, je vais pas générer de changement massif. Et donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites pour tester, qui fonctionnaient pas trop mal, mais ils avaient pas trouvé la recette gagnante sur la partie économique. Ensuite, si on se place du point de vue chaîne de valeur, pour libérer la croissance du digital, il y a grosso modo deux grands sujets à résoudre. Le premier, c'est comment j'offre une expérience d'achat qui est vraiment différenciante par rapport à l'expérience magasin. Donc c'est ce qu'on appelle le first mile. Et le deuxième sujet qui est comment je livre de manière efficace et au meilleur prix la commande que le client aura générée, qui est ce qu'on appelle le last mile. Donc nous, on avait une conviction de départ qui est qu'il y avait un énorme enjeu sur le first mile, sur l'expérience d'achat qui n'avait pas été réinventée et révolutionnée. Et cette intuition, elle était confirmée par le marché, parce qu'effectivement, si on fait un mapping du marché encore aujourd'hui, alors que 50% du problème est sur le first mile et 50% du problème sur le last mile, 98% des investissements sont sur le last mile, et sur le first mile, il n'y a quasiment que nous. C'est-à-dire que si je prends Ocado UK, qui est un des acteurs des entrepôts automatisés, qui est un des acteurs de référence sur la partie last mile, leur first mile, leur site, il est classique, c'est un catalogue à plat avec des catégories, des sous-catégories. Si je reparle d'Instacart, qui est le leader aux États-Unis du personal shopper, leur catalogue et leur application, elle est classique, c'est un catalogue à plat avec des catégories, des sous-catégories. Pareil pour Picnic, ils ont réinventé les tournées de livraison, mais ils n'ont pas réinventé l'expérience d'achat. Et pareil, y compris pour les nouveaux entrants
dans le
Q-commerce, ils ont révolutionné le last mile et la livraison, mais l'expérience d'achat, alors elle est un peu plus fluide parce que comme ils ont des assortiments plus courts, il y a moins de produits, donc on trouve plus vite ce qu'on cherche, ce qui est déjà une très bonne chose. Mais il n'y a pas eu vraiment de révolution sur le
On va venir sur la révolution de cette expérience d'achat. J'aimerais faire un petit focus sur le consommateur, les besoins. Et ça va aider à répondre justement à ce point sur l'expérience d'achat. De quoi il a envie ? Qu'est-ce qu'il recherche ? Quand il y a quelques mois, il y a une année, quoi, quand les premiers acteurs du Q-commerce sont arrivés en France, on a entendu beaucoup de personnes crier au scandale que la flemme économie, que ça allait pas marcher. Bon, et force est de constater que ça marche. Hein. C'est-à-dire que les livreurs, on les voit dans les rues, on en voit plusieurs. Avec des arrivées tous les 4-5 mois d'un nouvel acteur, alors oui, il va y avoir de la concentration, mais ça fonctionne. Le besoin du consommateur, il est où ? C'est quoi les tendances consommateurs par rapport à l'ensemble de l'expérience d'achat, évidemment dernier kilomètre, mais aussi l'expérience au début.
Alors, je vais garder le même découpage, first mile, last mile. Donc sur l'expérience d'achat, le besoin du consommateur, il est polymorphe, parce que grosso modo, si je simplifie, le panier, il y a une partie qui est alimentaire et il y a une partie qui est produit du quotidien. Sur la partie alimentaire, ce que veut le consommateur, c'est de l'inspiration. Si j'ultra-schématise, si les familles françaises mangent tout le temps la même chose et souvent des pâtes au beurre, c'est pas parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'ils n'ont pas les outils et qu'ils ne sont pas accompagnés pour trouver d'autres idées de recettes simples et qu'on les aide pas dans ce processus. Donc là, c'est une des missions de Joe, c'est d'accompagner le consommateur sur la partie inspiration et de faire les courses à sa place en fonction des recettes qu'il aura choisies, et donc de ne plus commencer par le produit, qui est finalement une entité qui n'a pas un paquet de pâtes.
On
commence par la recette, qui est le véritable usage. Et donc ça, on y reviendra, mais c'est une différence fondamentale. Et ensuite, sur la deuxième partie du panier, qui sont les produits du quotidien, donc le shampoing, le dentifrice, la lessive, c'est un besoin qui est complètement différent. C'est on-off du papier toilette. Ce que je veux savoir, c'est s'il m'en reste ou pas. J'ai pas besoin d'inspiration à chaque fois pour me présenter un nouveau papier toilette. Et donc là, déjà, on met le doigt sur un problème, c'est qu'on peut pas offrir la même expérience d'achat pour des usages et des besoins qui sont différents. Un besoin d'inspiration, ça n'a rien à voir avec un besoin d'automatisation. Et c'est comme ça qu'on a construit le produit Joe dont on parlera tout à l'heure. On apporte de l'inspiration sur la partie food, et on apporte de l'automatisation sur la partie du produit, des produits quotidiens pour qu'on n'ait même plus besoin de réfléchir à s'il nous reste du liquide vaisselle ou du...
C'est presque une bonne transition, j'ai envie qu'on y aille, mais globalement, est-ce que tu peux nous parler des différences de comportement d'achat que tu peux observer entre les grandes villes, les métropoles et les zones plus rurales? Est-ce que ça s'observe? Est-ce que... C'est quoi la réalité là-dessus?
Alors, c'est pour juste enlever le côté très parisien des innovations dans la livraison ultra rapide, parce que la réalité, elle est... Alors, si je suis ravi de désacraliser le côté parisien, parce que c'est effectivement un des problèmes qu'on rencontre, nous. Parce que nous, on ne s'adresse pas uniquement aux Parisiens, on s'adresse beaucoup plus à tous les Français. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez spécifique chez nous. Donc, pour le prendre sous l'angle du marché, nous, ce qui nous a surpris, c'est que quand on a regardé les innovations, il y a eu une énorme vague food tech sur les 10 dernières années. Quand on regarde à qui s'adressent ces innovations food tech, elles s'adressent dans la quasi-totalité des cas aux 10% des urbains les plus riches qui peuvent se payer un hamburger tiède à 25€ déposé devant leur porte. Non mais je suis volontairement provocateur, mais c'est vrai.
Ouais.
Et à l'inverse, quand on regarde la réalité du marché, 80% des familles françaises mangent chez elles essentiellement des choses qu'elles ont achetées au supermarché. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme service autour de la food des supermarchés sur les 10 dernières années? Aucun. Il n'y a pas une start-up qui s'est attaquée aux 80% de familles françaises qui avaient besoin d'aide pour mieux manger avec comme base de sourcing le supermarché. Et les supermarchés ont fait des milliards d'innovations, encore une fois, sur le last mile, le drive piéton, le click and collect et ainsi de suite. Mais finalement, très peu, beaucoup d'innovations aussi sur les produits, donc des nouvelles gammes de produits. Ils ont pris en compte les retours de UK et ainsi de suite. Donc il y a plein de trucs qui vont dans le bon sens, mais sur la partie servicielle, il n'y a eu aucune création de service pour les 80% de familles françaises qui font leurs courses alimentaires au supermarché. Alors que par ailleurs, à Paris, on a vu des startups dans tous les sens. Et aujourd'hui encore, j'ai régulièrement des discussions avec des journalistes, des investisseurs et ainsi de suite, qui ont un prisme très parisien. C'est-à-dire qu'évidemment, loin des yeux, loin du cœur, quand on est à Paris et qu'on voit toute la journée des livreurs, Gorillaz, Frishti, Carrefour, Ocado Monoprix et ainsi de suite, on se dit que c'est ça le marché. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça le marché. Le marché, c'est 80% des familles françaises se nourrissent au supermarché. Et donc nous, c'est ce marché-là qu'on a voulu adresser. Et pour répondre à la question de la segmentation, pour faire très très simple, c'est un marché qui est ultra mainstream, donc c'est pas forcément la peine de le décomposer puisque ça s'adresse vraiment à tout le monde, du jeune actif qui habite tout seul jusqu'à la famille nombreuse plus âgée qui habite en province. Mais il y a deux grands segments malgré tout qui se dessinent. Il y a un premier segment qui est la famille qui va plutôt habiter en province ou en zone périurbaine, qui va essentiellement faire ses courses pour toute la semaine, donc un gros caddie en drive, ça c'est le premier segment, qui correspond en magasin physique au format supermarché, hypermarché. Et il y a un deuxième segment qui correspond à un deuxième mode de consommation, qui est ce qu'on appelle la proximité. Donc la proximité, c'est les petits supermarchés, donc les Franprix, les Carrefour City, les Monoprix, qui correspond plutôt à des familles urbaines qui vont faire un plus petit panier pour les 3 ou 4 jours qui suivent et qui ont souvent des revenus un peu plus élevés. Et donc les deux grands sujets, c'est est-ce que je fais mes courses pour quelques repas ou est-ce que je fais mes courses pour toute la semaine? Est-ce que je le fais en format proximité ou est-ce que je le fais en format supermarché? Est-ce que j'ai beaucoup d'argent ou est-ce que j'ai un budget réduit? Mais c'est grosso modo les deux grands axes. Et évidemment, entre les deux, il y a tous les sous-segments qu'on peut imaginer.
Alors, merci pour ces éléments très clairs et qui vont me permettre de... Tu vas me dire si je me trompe. Je vais essayer de raconter finalement comment j'ai perçu l'offre de service de Joe. Et puis, tu corriges si c'est faux. L'idée, c'est d'arriver sur l'app, de s'enregistrer, d'enregistrer la chaîne de magasins où on a l'habitude de faire ses courses. Donc, par exemple, moi, j'ai l'habitude de faire mes courses chez Carrefour. Je vais rentrer mon numéro Carrefour, de client de ma carte Carrefour. Et en fonction de la zone géographique où je me trouve, on va allouer le Carrefour le plus proche de chez moi. Mmh. Ce qui veut dire que c'est Carrefour qui va me livrer in fine mes courses.
Tout à fait.
Une fois que ça, c'est paramétré, je vais rentrer des habitudes alimentaires, des menus, le nombre de personnes qu'il y a dans mon foyer et des habitudes alimentaires. On va me proposer en fonction de ça, des listes de recettes, de menus. Et puis, je vais les sélectionner, je vais pouvoir ajouter ou retirer des recettes, ajouter ou retirer des convives. Si on se dit, par exemple, dans la semaine, je vais avoir un dîner où je reçois des amis, il faut que je rajoute 4 personnes, donc je peux les rajouter. Et à la fin, quand on valide, ça fait la liste des courses de produits qui sont disponibles chez Carrefour. On paye et Carrefour nous livre les produits avec lesquels on va pouvoir composer les menus qui nous ont été suggérés. Est-ce que c'est à peu près ça ?
C'est exactement ça. L'idée de Joe, en fait, c'était d'inverser la tendance et de refaire les courses dans le bon ordre. Inverser la tendance parce qu'aujourd'hui, on met toute son énergie dans faire les courses et finalement très peu d'énergie dans le bien manger. Et faire les courses dans le bon sens parce que c'est une anomalie, c'est un artefact et c'est une anomalie de commencer par le produit, donc de d'abord aller en magasin et ensuite de se demander ce qu'on va faire à manger. Il faut le faire dans l'autre sens, il faut d'abord se dire qu'est-ce qu'on a envie de manger et ensuite faire les courses en fonction. Donc nous, notre thèse de départ, c'était de dire ça, c'est on fait aujourd'hui les courses à l'envers, on va le samedi en magasin, souvent on vit ça comme une corvée, on fait ses courses un petit peu à l'inspiration du moment, dit autrement en freestyle ou à la va-vite. Et on se dit, bon, bah, c'est bon, j'ai payé les courses.
En fonction des têtes de gondole et des promos, on va dire qu'on va échanger
on n'a aucun plan. La vérité, c'est qu'on n'a aucun plan. Et ça, on le paye la semaine suivante, parce que quand on rentre chez soi la semaine suivante, on ouvre son frigo et on est tous les soirs exposé à la même question, qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir ? Et comme notre frigo, c'est un bazar qui est lié à notre inspiration du moment du week-end précédent et qu'il n'y a aucune organisation à l'intérieur, eh ben on bricole. Et donc, faire ses courses est une corvée. Et cuisiner est une souffrance parce que c'est du bricolage et qu'on n'a jamais ce qu'il faut pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc nous on s'est dit, ben en fait il faut le faire dans l'autre sens. Il faut se dire et c'est une inspiration, tous les papas et les mamans, notamment nos grandes familles, savent que c'est la bonne organisation. D'abord je fais la liste des recettes que j'ai envie de faire et après j'achète en fonction. Le seul petit écueil de cette approche, c'est que si l'ennemi principal du supermarché, a fortiori en digital, c'est l'hyper choix. Une expérience où on est face à un hyper choix, c'est une expérience qui est compliquée et qui parfois même peut être un peu anxiogène pour certains clients. Si à cet hyper choix de produits, on ajoute un hyper choix de recettes, c'est déjà très long de choisir ces produits. Si on rajoute à ça une heure de préparation de course, c'est-à-dire que pendant une heure, il faut que je cherche des recettes, machin truc, je vais jamais y arriver. Donc un des trucs qu'on a compris très très vite, c'est qu'il fallait pas proposer un catalogue de recettes, il fallait directement faire un menu prêt à l'emploi et totalement adapté au profil de l'utilisateur. Et là, c'est assez saisissant parce que de la même manière que je disais, il y avait personne sur le first mile et nous, on est les seuls sur le first mile quand tout le monde est sur le last mile, il n'y a aujourd'hui, à part Joe, littéralement aucun moteur de recommandation de recettes sur le marché. Alors qu'on a Spotify pour nous recommander de la musique, on a YouTube pour nous recommander des vidéos, aujourd'hui, il n'y a pas un site où je peux aller et dire « Je suis Jacques, on est quatre à la maison ». On a un four, un micro-ondes, mais on a des plaques, mais on n'a pas de Thermomix. On mange de tout, mais on essaie de limiter le gluten. Oui, c'est ça, parce qu'en
fait, tu rentres aussi les données sur le matériel dont tu disposes à domicile. Exactement. Si tu n'as qu'un micro-ondes, ben, on va te proposer des solutions cuisinables qu'avec un micro-ondes. En revanche, si tu as un four classique, un micro-ondes, des plaques, un Thermomix, eh ben, on va élargir les possibilités qui sont offertes.
C'est totalement personnalisé, et c'est quelque chose qui est essentiel, parce que course ou pas, aujourd'hui, quand je cherche une recette, je vais sur un site de recettes et c'est à moi de me débrouiller. C'est à moi d'aller chercher une recette, de vérifier qu'elle ne va pas être trop longue, de vérifier que les produits, je vais savoir où les acheter, parce que je vous mets au défi de me dire spontanément où est-ce qu'on achète du yuzu, par exemple. Non, mais c'est une vraie anecdote. De vérifier que ça ne va pas être trop long, de vérifier qu'il n'y a que des ingrédients que j'aime bien, et ainsi de suite. Donc, toute la partie trouver et qualifier la recette en fonction de mon besoin, aujourd'hui, quand je suis sur un site de recettes, c'est à moi de faire le travail manuellement pour une recette. Et puis pareil pour la suivante, et ainsi de suite. Donc en fait, si je le fais comme ça, je vais rajouter une heure à mon process de course qui m'en prend déjà.
C'est là où vous avez, chez Joe, investi le plus dans le développement, l'algo.
Ça a été le point de départ de tout. Donc avant même, donc le principe de Joe, vous l'avez compris, c'est on vous fait un menu et en un clic, on va remplir votre caddie automatiquement. Donc on va faire les courses à votre place en fonction des recettes que vous avez choisies. Donc c'est la partie magique. Et on a compris très tôt deux choses. La première, c'est qu'il ne fallait pas... Il fallait faire un menu directement prêt à l'achat et pas perdre du temps à aller chercher les recettes une par une. Et que pour ça, il fallait construire un moteur de recommandation de recettes. Donc on est aujourd'hui une des seules solutions du marché qui permettent, en fonction de vos goûts, de votre équipement de cuisine, du profil de votre foyer, si vous avez des enfants ou pas, et ainsi de suite, de vous sortir clé en main un menu prêt pour la semaine suivante. Donc ça, ça a déjà une valeur de dingue. Et il y a un deuxième élément qui était important, qui est la qualité des recettes. On n'en a pas toujours conscience, parce qu'on s'est dit, on s'est fait la même réflexion qu'on s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas encore de moteur de recommandation de recettes ? On s'est dit, mais pourquoi, alors que c'est un besoin fondamental de la pyramide de Maslow, que c'est un sujet, la food, qui a une résonance dingue avec le succès des émissions de cuisine dont on parlait, et ainsi de suite. Pourquoi il n'y a pas déjà des services comme ça ? Et ce qu'on a identifié assez rapidement, c'est que il y a une orthogonalité entre faire des recettes pour un site de recettes et faire des recettes pour le quotidien. Alors, pour le dire très simplement, il y a une vraie différence entre faire la cuisine et faire à manger. Faire la cuisine, c'est j'ai des amis qui viennent à la maison, je vais pour une fois aller au marché, je vais y passer 3 heures, je vais passer 4 heures en cuisine, je vais sortir le mixeur que je sors jamais de mon placard.
C'est ça.
Ça, c'est faire la cuisine. Ouais. Et donc, on est plutôt sur, je fais quelque chose de ponctuel, d'occasionnel, d'événementiel, c'est littéralement, je mets les petits plats dans les grands. Ou alors, je fais une après-midi gâteau avec mes enfants. Le point central de ça, c'est que c'est ponctuel. Et que c'est en fait pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est faire à manger. Et faire à manger, c'est
Très trivial comme terme, mais c'est vraiment celui qui convient.
C'est exactement ça.
C'est ça.
Et alors effectivement, c'est pas hyper sexy de prime abord, mais c'est bien la réalité du quotidien. L'équation que nous on essaie de résoudre, c'est j'ai bossé 10 heures, je rentre à la maison, et là j'ai les enfants qui attendent, qui ont faim, donc ils sont peut-être en train de crier déjà autour de la table, et je suis face à une équation impossible qui est faut que je fasse un truc simple, rapide, bon, équilibré. Et pas cher. Et ça, pas que le lundi soir, mais aussi le mardi soir, aussi le mercredi soir.
Et donc, vous avez investi ça, en fait. Votre solution aujourd'hui et les développements qui ont été derrière permettent ça. Il y a quand même, dans l'équation, une autre donnée qui est à prendre en compte, qui est celle des distributeurs. Comment tu fais le lien entre, finalement, l'app et puis le compte Carrefour? Est-ce que quand, moi, consommateur, je paye sur Joe, je paye à Joe ou je paye à Carrefour?
Alors, ça, c'est effectivement le deuxième point qui est très important. Donc, le premier facteur clé de succès pour rendre une recette achetable, le premier facteur clé de succès, c'est que la recette soit elle-même pertinente. Donc, ouais. Ça, c'est le fameux faire à manger.
Ouais.
Et donc, pour revenir sur notre investissement initial, avant même de lancer le développement de l'app, le premier truc qu'on a fait, c'est d'écrire la charte de qu'est-ce que c'est une recette simple et une recette du quotidien. Et donc, toutes les recettes Joe sont faites par Joe, pour Joe, et elles sont toutes faites avec cette idée de « il faut qu'elles soient malines, simples, équilibrées, adaptées au quotidien ». Le deuxième point, et ce catalogue de recettes-là, il n'existe pas. Sur le marché, il n'existe pas. Le deuxième point, c'est que toutes ces recettes-là, elles sont, by design, dès leur conception, pensées pour être achetées dans un supermarché. C'est un élément qui paraît évident, mais qui est en fait hyper important. C'est-à-dire que vous pouvez, je reprends mon exemple du yuzu, on peut faire une recette très simple avec du yuzu. Un poisson ou une viande cuite rapidement, et après je mets mon yuzu dessus en condiment. Le problème, c'est que le yuzu, je ne vais jamais en trouver en supermarché. En livraison à domicile ou en drive, il n'y a quasiment jamais du poisson frais qui est disponible. Donc il y a tout un éventail de recettes qui ne seront jamais faisables si on prend comme point de départ le sourcing.
Donc ça veut dire que tu fais la curation de ce qui est utilisable ou pas dans les aliments de Carrefour, Monoprix, Auchan, Super U ou...
C'est-à-dire que je fais mes recettes en fonction de ce que je sais d'un assortiment de supermarché.
Et alors, donc ça veut dire que tu es certain que dans la recette qui t'est proposée alors que tu as rentré ton compte Carrefour, Super U, Intermarché, whatever, tu es certain que finalement la recette qui t'est proposée, les aliments vont être disponibles dans le supermarché?
Alors voilà, donc c'est pour ça que... Donc comment on peut s'assurer que les recettes qu'on propose vont être disponibles, pas seulement chez Carrefour, mais dans votre Carrefour à vous, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'assortiment de votre magasin, pas seulement du catalogue Carrefour. C'est effectivement indispensable pour rendre les recettes achetables et s'assurer que les ingrédients sont disponibles. Et donc pour faire ça, on fait un truc qui est magique, c'est qu'on vous permet sur Joe de vous connecter directement avec votre compte Carrefour. Et donc, à partir de ce moment-là, on connaît votre magasin et on va vous recommander des recettes en fonction de votre magasin.
Ça nécessite une connexion avec le système du magasin. Est-ce qu'il y a des accords qui ont dû être passés avec les distributeurs pour pouvoir proposer ça?
Exactement. C'est donc là le principe de fonctionnement de Joe, c'est que en fait, on est un assistant personnel pour remplir votre caddie dans votre magasin préféré. Donc en fait, c'est comme si il faut imaginer, si on compare au magasin physique, c'est comme si vous alliez dans un supermarché Intermarché, pour citer nos autres partenaires, mais qu'au moment où vous allez faire vos courses, vous avez à côté de vous un assistant personnel qui s'appelle Joe, et qui vous dit est-ce que ça te dirait pas de faire telle ou telle recette? Vous lui dites oui, et lui il va faire le tour du magasin à fond la caisse pour remplir votre caddie, et il va faire les courses à votre place. Notre modèle digital, c'est la même chose. Sauf que au lieu d'être un personnel shopper physique, c'est une app qui va aller sur votre plateforme e-commerce
faire ce qui veut dire que vous n'avez pas à gérer les encaissements.
Alors concrètement, si vous vous loguez sur Joe, vous vous loguez avec votre compte supermarché, vous créez un panier de votre supermarché. Donc la meilleure preuve de ça, c'est que si vous vous déloguez sur Joe et que vous allez vous connecter sur Auchan.fr, vous allez retrouver votre panier, puisque derrière c'est la plateforme e-commerce de Auchan.fr. On fait des vraies commandes Auchan, Carrefour, Intermarché. Donc derrière, la commande elle va être gérée par votre supermarché favori. Et effectivement, vous pouvez payer directement sur Joe, mais c'est derrière, on paye le supermarché directement.
D'accord. Le modèle économique chez toi, il tient comment ?
Alors, la colonne vertébrale de notre modèle économique, c'est un modèle d'affiliation assez classique. C'est-à-dire qu'on a des deals avec nos supermarchés partenaires qui nous reversent une toute petite commission sur chacune des commandes qu'on leur envoie. Mais comme on fait beaucoup de volume, ça représente un chiffre d'affaires assez conséquent, assez rapidement.
D'accord. Et, tu parles de chiffres, justement. Quel est le nombre d'utilisateurs actuels de Joe, 4 ans après son lancement? Avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais que vous aviez 22 000 commentaires sur l'App Store avec une note de 4,9. On reviendra justement sur ces aspects-là de la relation client après. Mais voilà, c'est combien de clients aujourd'hui qui l'utilisent et est-ce que comme on peut l'entendre sur quand Facebook parle de ses utilisateurs, ceux qui sont actifs et non actifs, est-ce que c'est aussi une différence que vous faites ?
Alors, pour faire un peu la carte d'identité de l'entreprise, aujourd'hui, Joe est branché sur les 6 plus gros supermarchés français. Ça représente à peu près 4000 points de vente à travers toute la France. Donc, on couvre virtuellement toute la population française, ce qui est génial pour une startup qui a 3 ans, hein, parce qu'en général, les startups commencent par Paris, puis après, elles font les autres grandes villes. Donc, on est encore une fois très, très fiers, et ça fait partie des éléments clés de notre mission de s'adresser à tous les Français. On a un volume d'affaires qui aujourd'hui est à 9 chiffres, donc on fait un volume d'affaires qui est déjà en centaines de millions d'euros après 3 ans, donc c'est encore une fois une croissance qui nous a surpris nous-mêmes, pour être honnête, tellement ça fonctionne bien. En termes d'utilisateurs, on en a en moyenne 2 millions par mois. Alors nous, c'est pas la distinction de... Donc là, je parle d'utilisateurs actifs.
Ouais.
Je ne compte pas les inactifs. On a beaucoup plus évidemment en inscrits ou en téléchargement. En revanche, on fait la distinction entre les utilisateurs e-commerce et les utilisateurs non e-commerce. C'est-à-dire que on a beaucoup d'utilisateurs qui viennent sur l'application pour générer des menus et des listes de courses, mais qui ensuite les prennent l'app et vont faire les courses en magasin. Ce qui est somme toute hyper normal, puisqu'on est encore sur un marché où 9 commandes sur 10 est passée en magasin physique. Donc c'est normal qu'on trouve cette géométrie sur Joe, d'autant plus que, encore une fois, les deux piliers principaux de notre proposition de valeur, c'est 1. La recommandation de menu, parce qu'on est les seuls à savoir faire ça. Vous recommandez un menu parfaitement adapté à votre profil pour la semaine suivante. Et la capacité de convertir un menu en un panier directement achetable, ce n'est jamais qu'une liste de courses. Donc on peut très bien ce panier ou cette liste de courses la garder dans son téléphone et partir ensuite faire ses courses en magasin. Ce qui permet d'enchaîner directement sur la partie d'acquisition. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant en termes d'acquisition. Si je schématise, si je suis un e-commerçant classique, si je suis un supermarché classique, tous les efforts d'acquisition que je vais faire pour amener le client sur ma plateforme et ensuite essayer de le faire commander, si j'arrive pas à le faire commander, le client n'a aucune incentive, aucune motivation à revenir sur mon app s'il n'a pas été séduit par l'app. Donc je repars à zéro et je dois relancer mon effort d'acquisition. Le gros avantage de Joe, c'est que comme on est au point de départ un média, puisqu'il y a du contenu à consommer sur l'application, il y a des recettes à appliquer, il y a des menus à générer, et ainsi de suite. Nos efforts d'acquisition, c'est d'abord on amène les gens sur l'application. C'est complètement OK s'ils nous piquent des recettes, s'ils consomment du contenu, et ainsi de suite, parce qu'ils vont rester sur l'application. Et donc, en fait, on a un pool de prospects qui est disponible sur notre application en permanence. Et c'est quand ils sont sur notre application que derrière, on essaye de les activer en client e-commerce. Mais même si on ne les active pas tout de suite, ils sont contents de rester sur l'application pour piquer des recettes, voir nos contenus, et ainsi de suite. Et donc, en termes d'efforts d'acquisition, c'est extrêmement performant parce que dans le cas 1, si je ne le transforme pas tout de suite en client e-commerce, je le perds. Dans le cas 2, qui est le cas de Joe, il va rester sur l'application pour consommer du contenu et j'aurai un peu plus de temps pour essayer de le faire convertir vers le client e-commerce.
C'est ça, il est déjà un peu aimanté à ta proposition de valeur. Avant qu'on revienne sur, pour conclure, sur les sujets justement de la relation client, de l'acquisition, la fidélisation, de la data, etc., des aspects peut-être communauté. Tu parlais de Joe en disant voilà, c'est l'app qui va aider à gérer la maison. On a parlé de la food, on a commencé à parler des consommables, du PQ, de la lessive et compagnie, avec un système d'automatisation. Tu nous l'as teasé quelque part, mais tu ne l'as pas expliqué. Est-ce que tu peux compléter?
Pour faire la séquence d'achat de Joe, c'est assez simple. Donc, on se log, on décrit son foyer, ses habitudes, ses équipements, et ainsi de suite. Là, on va vous recommander un menu totalement adapté à votre profil avec des recettes simples et adaptées au quotidien. Vous pouvez, si ce menu vous plaît, vous pouvez l'acheter directement. S'il ne vous plaît pas, vous pouvez changer. C'est 100% recommandé, mais 100% flexible. Vous pouvez changer les recettes, changer le nombre de couverts. Enfin, vous avez totale latitude sur la configuration de ce menu. Vous cliquez sur suivant, donc c'est là que la magie opère, on va remplir automatiquement votre panier avec tous les produits nécessaires qui eux aussi vont être profilés en fonction de vos habitudes. Donc si vous achetez une recette de pâtes et qu'on sait que votre marque favorite c'est Barilla, on va vous mettre des Barilla par défaut dans votre panier. Pour autant, si on s'est trompé, vous pourrez cliquer sur le produit et là encore, flexibilité totale, vous pourrez aller chercher n'importe quel autre spaghetti dans le magasin. À ce stade, vous avez fait toute la partie alimentaire qui est la partie la plus compliquée, qui est de trouver et des idées de repas et d'organiser et d'acheter en fonction. Et ensuite, vous rentrez dans la deuxième partie de l'expérience qui sont effectivement les consommables, les produits du quotidien, on appelle ça comme on veut, le dentifrice, le papier toilette, le shampoing. Et là, c'est ce que je disais, c'est un process qui est complètement différent. Ce que vous voulez, c'est avoir tout de suite sous les yeux vos produits préférés. Donc dans cette partie-là, vous avez évidemment accès à tous les rayons classiques du magasin pour compléter votre panier, vous avez accès au moteur de recherche si vous voulez chercher un produit en particulier, mais ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait une liste, on fait automatiquement une liste de vos produits préférés, qui sont soit des produits que vous avez explicitement indiqués comme étant vos favoris, soit des produits qu'on voit que vous achetez fréquemment. Et donc en fait, vous avez vos produits favoris et achetés fréquemment, vous n'avez plus besoin d'aller les chercher, on fait automatiquement la liste pour vous.
Et tu coches
ou décoches. Et il n'y a plus qu'à cocher les produits dont on a besoin. Ouais. Et donc ça, c'est effectivement la deuxième partie de l'accélération de l'expérience. Comme toute start-up, on a dû commencer par un sujet. Donc le premier truc qu'on a craqué, c'est la food, qui était le sujet le plus important parce que la première raison pour laquelle on va au supermarché, bah, c'est bien pour s'acheter à manger. Et maintenant qu'on a clairement craqué ce sujet-là, puisque ça fonctionne extraordinairement bien, on s'attaque à la deuxième partie du panier qui est comment j'automatise mes sujets du quotidien. Et c'est marrant parce que si on fait un petit retour sur le marché, il y a la partie food, il y a la partie produits du quotidien et il y a plein de startups qui ont essayé d'attaquer des morceaux de ce panier e-commerce, mais sans jamais couvrir la totalité. C'est-à-dire que sur la partie food, ça a été attaqué notamment par les meal kits, donc les HelloFresh, Blue Apron, Kitok. Sauf qu'un kit de recettes, ça résout quelques repas par semaine, pas tous les repas, et il faut de toute façon aller au supermarché pour tout le reste. Accessoirement, c'est souvent beaucoup plus cher que le supermarché, et c'est pas du tout recommandé et pas du tout flexible. Là où Joe, ça peut résoudre virtuellement tous les repas, on peut faire toutes ses courses directement sur l'app, donc on n'a pas besoin de. On peut aussi faire ses courses au supermarché, c'est 100% recommandé, 100% flexible, j'ai le choix dans les recettes, j'ai le choix dans le nombre de recettes, j'ai le choix dans les produits, ainsi de suite. Et surtout, c'est au prix du supermarché, donc c'est game changer. Et sur la deuxième partie du panier, qui sont les produits du quotidien, donc le shampoing, les croquettes, la lessive, Là, pareil, il y a eu sur les 10 dernières années des milliers d'initiatives. Amazon Dash Button pour recommander de la lessive automatiquement, Barker.com pour avoir les croquettes pour chiens automatiquement, Diapers.com pour avoir les couches automatiquement. Mais nous, quand on a regardé ça, on s'est dit, mais pourquoi fractionner ces trucs quand en fait tout est déjà disponible dans un supermarché? On peut pas imaginer un futur où j'ai un livreur qui arrive pour les couches, puis un autre pour les serviettes hygiéniques, puis un autre pour l'eau minérale, puis un autre pour les lames de rasoir. Ça n'a aucun sens. Et donc la valeur centrale du supermarché, c'est tout sous le même toit. Et donc sur la partie produits du quotidien, ce qu'on essaie, c'est d'automatiser les achats de repeat, comme on les appelle, qui ont des fréquences différentes, qui correspondent à des patterns et à des modèles d'achat différents. Sauf que les supermarchés, ils ont toute cette data, ils ont toute cette connaissance, il n'y a plus qu'à la mettre en œuvre.
Ok, merci pour ces éléments-là. Justement, revenons sur le consommateur. Comment vous les gérez, vos utilisateurs? Tu as commencé à donner des éléments de réponse en disant qu'il y a d'un côté les acheteurs, de l'autre les utilisateurs de l'app, et j'ai envie de les appeler les squatteurs, mais c'est de bonne guerre, de la même façon que la FNAC laisse les enfants lire les BD dans les rayons. C'est un peu ça, peut-être.
C'est clairement l'idée.
Voilà, l'idée. C'est quoi la suite? Comment ça fonctionne? Comment vous les animez? Comment vous leur parlez? Comment vous obtenez le retour d'informations? Comment le service client opère? Enfin, comment vous prenez la parole avec eux?
Alors, il y a... Pour commencer peut-être par la stratégie globale, on a construit Joe sur la base de deux convictions fortes. La première, c'est on est en train, sur la dimension e-commerce, de passer de catalogue à plat, où il y a finalement assez peu de personnalisation et de recommandations, à des expériences qui sont totalement recommandées. Donc, notre sujet numéro un, c'est la personnalisation et la recommandation. Tout le monde en parle, mais la vérité, c'est que sur Amazon, elle n'est pas hyper visible. Enfin, sur beaucoup de sites e-commerce, la recommandation et la personnalisation, à part du retargeting où on va me remettre l'appareil photo que j'avais vu il y a 2 semaines et ainsi de suite, il n'y a pas vraiment de personnalisation et d'expérience 100% recommandée. Si on prend un portail de supermarché classique, tout le monde va avoir la même arborescence, tout le monde va avoir la même liste de produits. Il y a peut-être quelques mises en avant qui vont être adaptées à mon historique d'achat, mais avec un point de vue produit, pas avec un point de vue usage.
Ouais.
Est-ce que c'est vraiment game changer pour moi qu'on me pousse ma brique de lait favorite sur la homepage? Je ne suis pas complètement sûr. Donc on est malgré tout encore sur des expériences d'achat qui sont des catalogues à plat avec des milliers d'entrées, de catégories, de sous-catégories, des filtres, des tris, ainsi de suite. Si on regarde Joe, le menu, il est 100% recommandé. Première page, le menu, il est 100% recommandé. Deuxième page, le caddie, il est 100% recommandé. Troisième page, je complète mon caddie avec ma liste d'achats fréquents, 100% recommandé. Et finalement, aujourd'hui, on a 50% de nos clients qui ne placent même plus par les rayons. C'est-à-dire qu'ils ne prennent que ils ne font leur parcours que via des pages qui ont été 100% designées pour eux, avec des produits et des recettes qui ont été poussées par eux. Le deuxième axe fort, et on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est le shoppable content. Sur les 20 dernières années, on avait d'un côté les sites qui donnent envie, Instagram, et de l'autre côté les sites qui nous vendent les produits, Auchan, Carrefour, Amazon. Et quand on se met dans la peau d'un client, si j'ai envie d'acheter un truc, je vais le repérer chez un e-commerçant, puis après je vais aller sur YouTube voir une vidéo d'unboxing, puis après je vais aller sur Instagram pour voir s'il n'y a pas un influenceur qui a fait une review. Et la question, c'est pourquoi tous ces éléments, pourquoi tout ce contenu qui m'aide à l'achat n'est pas disponible directement sur la fiche produit? Donc une des convictions fortes de Joe, c'est qu'on est en train d'assister à la convergence du contenu et du e-commerce. Et ça se voit, Instagram fait des shoppable posts, maintenant je peux acheter directement depuis un post Instagram. Les retailers investissent de plus en plus dans le contenu, sur Amazon il n'y a pas besoin de faire de dessin, mais il y a une grosse tendance autour du live shopping, on utilise de plus en plus des influenceurs, et donc le retail et le e-commerce va vers le contenu va vers le retail et le e-commerce. Nous, on a fait le pari dès le départ d'intégrer les deux, c'est-à-dire que Joe, aujourd'hui, on ne s'en rend pas forcément compte de prime abord, mais c'est la seule plateforme qui permet d'aller du contenu au paiement en ligne droite et sur le même service. le contenu étant la recette, la vidéo de la recette, puisque pour chaque recette on a une vidéo. Donc on inspire le client avec le contenu, et si ce contenu lui plaît, il peut l'acheter. C'est une révolution.
Ça veut dire que, en fait, pour chaque recette, tu as une vidéo. Ça veut dire que globalement, non seulement tu as les aliments, mais en plus on t'explique comment tu vas cuisiner.
Exactement. C'est pour ça qu'on est dans cette cuisine. Cette cuisine, c'est notre studio vidéo. Et donc, non seulement on donne les recettes, mais en plus, on fait un tutoriel vidéo pour expliquer comment ça se passe. Et donc, notre chaîne d'acquisition, c'est on publie nos idées de recettes sur Internet, en vidéo, sur tous les canaux possibles. Si ça plaît aux gens, ils peuvent cliquer dessus, arriver sur Joe, et ils peuvent acheter cette recette. Et donc, on a vraiment la maîtrise bout en bout du contenu à l'assiette, en passant par le paiement e-commerce. Et ça, c'est la force d'une intégration complète. On produit notre propre contenu. Donc, on est à la fois une boîte de contenu, on est un média, on est aussi une boîte de e-commerce parce qu'on fait la transaction. Et on est aussi une boîte de tech parce que pour faire tourner tout ça, aussi bien les intégrations marchandes que les algorithmes de recommandation, il faut de la tech très très lourde. Hein. On n'est pas. Tout a été fait en interne, on n'utilise pas de solution sur étagère type Shopify ou autre, on est vraiment une grosse
tech. J'imagine que c'est vraiment un élément différenciant. Avant que le mot de la fin et la conclusion, quelles sont les prochaines étapes pour Joe? C'est quoi les projets de développement? Est-ce qu'on parle de l'international? C'est quoi?
Alors, la grosse prochaine étape pour nous, c'est qu'on est en train de lancer aux États-Unis. C'est déjà une réalité. On a 10% de notre équipe qui est américaine. On a des bureaux aux États-Unis. L'app est disponible sur l'App Store aux US. Donc, on est en soft launch, comme on dit dans le jargon. Donc, ça, c'est notre prochain gros marché. Pour autant, on a encore beaucoup, beaucoup de marge de progression en France, puisque même si on est déjà devenu une très grosse start-up, puisque, comme je disais, notre volume d'affaires est en centaines de millions d'euros, on reste malgré tout des nains à l'échelle de l'industrie, parce que un très gros supermarché, par exemple un hypermarché, à lui seul fait entre 80 et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, nous, on représente quelques supermarchés en termes de volume d'affaires, mais il y en a des milliers en France. Donc on a quand même un réservoir de croissance sur la France qui est très très grand. Donc ça, c'est pour la partie marché et internationalisation. Et on a plein de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver très bientôt, notamment sur la partie activation sociale. On a envie que les gens puissent partager leurs recettes préférées, en discuter avec leurs amis, et ainsi de suite. Donc là, on ne veut pas être un réseau social. On veut plutôt avoir une approche à la Spotify, c'est-à-dire que Spotify, c'est avant tout un service audio. Mais il y a des fonctionnalités sociales qui sont la création de playlists, le partage de playlists, qui sont extrêmement importantes dans la vie du service. Nous, on a un peu la même approche, c'est-à-dire qu'on veut rester Joe et on veut rester focus sur le produit tel qu'on l'a construit aujourd'hui. Pour autant, on sait que c'est important de pouvoir partager ses recettes, en discuter avec ses amis, ainsi de suite. Donc on a pas mal de nouvelles qui arrivent sur la dimension sociale notamment.
Bon, écoute, merci Jacques pour cet échange. Merci,
merci
pour,
à toi.
Pour cette... ces explications hyper claires de la proposition de valeur de Joe, la façon avec laquelle vous l'adressez. Merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One to One Retail e-commerce de Monaco, pour son soutien à cet épisode. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie pour votre fidélité. Jacques, encore une fois, merci et puis à bientôt.
Merci à toi. À très bientôt.